Il est minuit et demi à Goma, une heure de moins à Paris.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo était au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York en fin d'après-midi. Ce soir, des éléments du M23 seraient déjà dans certains quartiers de Goma où l'on entend, selon de nombreux témoignages, des tirs sporadiques jusqu'au centre-ville. La ville de Goma, capitale provinciale, est d'ailleurs à l'arrêt. Les commerces sont fermés, l'eau et l'électricité coupées. Témoignages à suivre. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies appelle les parties au conflit à mettre un terme au combat. Et puis le gel des financements américains dans le monde, une menace pour des centaines de programmes. C'est le cas du plan de lutte contre le sida déployé dans 55 pays. Il a permis de sauver en 20 ans plus de 25 millions de vies. Oui, le M23 se rapproche donc de Goma, à Mounougui, à la sortie nord de la capitale provinciale du Nord Kivu, selon la chef de la mission onusienne en RDC. Des détonations entendues encore ce soir dans la ville, selon plusieurs témoins. Ce conflit dans l'est du pays était ce dimanche au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Aucune décision n'a été prise, mais Lubna Anaki, il y a eu des condamnations sans équivoque.
À l'unanimité, les membres du Conseil de sécurité ont tous appelé au cessez-le-feu. La solution doit être politique et non militaire. C'est le message qui a été répété tout au long de cette réunion qui a duré près de 3 heures. Réunion en présence de la chef de la diplomatie congolaise qui a exhorté le Conseil à prendre des actions concrètes. Trop de temps a été perdu dans l'inaction, a déclaré Thérèse Kayikwamba Wagner, qui en évoquant les combats en cours au nord de Goma, a accusé l'armée rwandaise d'avoir pénétré sur le sol congolais. C'est une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom, a-t-elle ajouté, le Rwanda persiste dans la terreur et le pillage. Un soutien rwandais évoqué aussi par la représentante onusienne sur place. Bintou Keita précise que les rebelles du M23 sont présents près de la base de la MONUSCO de Mounigui à la sortie nord de Goma. Elle a appelé le Conseil de sécurité à, je cite, prendre des sanctions contre toute personne responsable de violations du droit international. Un appel aux sanctions évoqué aussi par le représentant du Royaume-Uni qui estime, je cite, que toute attaque contre la MONUSCO doit être considéré comme un crime de guerre. Peu avant cette réunion, le secrétaire des Nations Unies a aussi pour la première fois appelé directement le Rwanda à respecter la souveraineté de la RDC et à retirer ses troupes. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et justement, direction Goma, ville encerclée par les combats. Les commerces, je vous le rappelle, sont fermés. L'eau et l'électricité coupées. Écoutez le témoignage de cet habitant inquiet. Il a été joint par Guillaume Thibault.
C'est la panique générale. Les boutiques sont en train d'être fracassées, ça crée la terreur. Toutes les boutiques sont fermées. Les déplacés qui étaient dans leur camp sont tous déversés vers Goma sans aucune destination. Alors, voyant tout ça, ça nous renferme dans nos maisons. On ne sait pas où aller, on ne sait pas comment se ravitailler en nourriture ni en eau. Il n'y a pas d'électricité, on est dans les noirs, il n'y a pas du courant. C'est grave, en tout cas c'est grave, c'est tout ce que je trouve à dire en général. On ne sait pas vraiment quoi faire. Moi, ce que j'attends personnellement, j'attends qu'il y ait quand même des négociations, que tout ça finisse. Vous pouvez imaginer une vie sans courant, sans eau, sans réseau, c'est quasiment invivable. Tout ce que moi je veux, c'est qu'il y ait un communiqué peut-être qui va rassurer la population de Goma par rapport à la situation, pour que tout ça finisse. C'est tout ce que nous avons besoin.
Et inquiétude également du coordinateur humanitaire des Nations Unies dans un communiqué diffusé ce dimanche matin. Bruno Lemarquis, qui dirige OCHA en République démocratique du Congo, appelle les parties au conflit à mettre un terme aux combats qui se déroulent dans des zones densément peuplées, notamment autour des camps de déplacés.
Je voudrais exprimer ma profonde inquiétude face à l'intensification des combats en cours autour de la ville de Goma et leur impact croissant sur les populations civiles. La proximité des combats dans des zones densément peuplées et l'utilisation d'artillerie lourde exposent les populations civiles à des risques intolérables. Au nom de la communauté humanitaire en République démocratique du Congo, j'appelle toutes les parties au conflit à mettre un terme immédiat à l'escalade militaire. Comme le secrétaire général des Nations Unies l'a souligné le 23 janvier 2025, une désescalade est indispensable. La communauté humanitaire exhorte la communauté internationale à intensifier ses efforts pour faire face à la crise humanitaire et sécuritaire qui s'aggrave rapidement. Il est également impératif de permettre la restauration des services de base dans la ville de Goma, notamment l'accès à l'eau, à l'électricité et aux soins de santé, afin de répondre aux besoins essentiels des populations touchées par le conflit.
Voilà l'appel de Bruno Lemarquis, coordinateur humanitaire des Nations Unies. Dans le reste de l'actualité, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a retrouvé ce dimanche son quartier général à Khartoum, QG qu'il avait dû abandonner en août 2023 aux forces paramilitaires de son rival, le général Hamdan Daglo, dit Hemeti. Ce retour intervient deux jours après une attaque sanglante de drones contre le principal hôpital d'El Fasher. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance des États du Sahel sont toujours réunis au Burkina Faso pour définir les formalités de leur rupture avec la CDEAO. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger travaillent sur un document commun en vue des discussions avec l'organisation régionale ouest-africaine. Document qui devra ensuite permettre de mener à bien les discussions consacrant une rupture définitive avec la CDEAO. C'est ce qu'indique le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakar Yaou Sangaré. Pour le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, le retrait de la CDEAO offre une opportunité de parvenir à une fraternité réelle, sans aucune ingérence, sans manipulation, mais aussi sans esprit de domination d'un pays par un autre. Fin de citation. La mise en pause des financements aux Américains pour une durée de 3 mois, une menace pour des centaines de programmes. C'est le cas de PEPFAR. Ce plan de lutte contre le sida déployé dans 55 pays a permis de sauver en 20 ans plus de 25 millions de vies. Mais le gel des financements aux Américains en menace des millions d'autres sur le continent africain. Les précisions de Nicolas Feldman.
Du Malawi au Zimbabwe, du Mozambique, en Ouganda, le professeur de médecine François Venter de l'Université de Johannesburg décrit depuis ce week-end une plongée dans l'inconnu.
Les gens paniquent sur le terrain. Si le financement de PEPFAR est complètement arrêté dans un pays comme l'Ouganda, par exemple, ça veut dire que personne ne pourra plus avoir accès aux médicaments antirétroviraux et que des centaines de milliers, si ce n'est des millions de personnes, mourront. Nous n'avons aucune communication des Américains sur l'avenir de ce plan. Et ce manque d'informations fait très peur.
Au-delà des traitements, le plan de lutte américain contre le VIH soutient du personnel médical, finance dans une trentaine de pays d'Afrique des campagnes de dépistage et de prévention.
Ces programmes sont en place depuis 20 ans, depuis l'administration Bush. Ils ont bénéficié à des millions de personnes et s'adressent aux populations les plus exposées au VIH. Et les résultats sont exceptionnels. L'arrêt de ce plan serait terrible.
D'après aux responsables du centre de prévention des maladies, l'Africa CDC, les pays du continent pourraient se tourner à l'avenir vers d'autres partenaires internationaux, à moins que les gouvernements africains ne s'accordent eux-mêmes pour financer ces programmes de santé.
Précision signée Nicolas Feldman. À présent, cap sur les îles Canaries. L'archipel espagnol devenu ces dernières années une des principales portes d'entrée vers l'Europe pour de nombreux candidats à l'immigration. L'année dernière, 47 000 personnes ont réussi la traversée essentiellement depuis l'Afrique de l'Ouest. Un chiffre record derrière lequel se cachent bien sûr des histoires et des trajectoires personnelles. Et c'est justement pour évoquer son parcours long d'une année qu'Augustin Prince Nombol, 24 ans, a décidé de dévoiler son histoire dans un livre intitulé « Le voyage de Prince », ouvrage écrit à la première personne. Nicolas Kirilovitch l'a rencontré lors d'une présentation organisée à Las Palmas de Gran Canaria.
Il aura eu besoin de plusieurs années pour mettre des mots sur sa traversée de son Cameroun natal, contraint de fuir à cause de violences communautaires fin 2016 à son arrivée en Espagne un an plus tard. Augustin Prince Nombol aura tout de même réussi à produire un récit, son récit, celui qui l'aura conduit dans 5 pays, à parcourir des milliers de kilomètres pour finalement livrer un carnet de voyage personnel, mais non sans intention.
Le message, il est précis, c'est un livre qui sensibilise beaucoup. Et voilà, j'aimerais que les jeunes essaient un peu de prendre conscience afin qu'il y ait moins de morts en mer et en désert.
En l'espace de 15 chapitres, de Pouma à Madrid, en passant par Agadir ou Tanger, Augustin Prince Nombol nous fait découvrir sans concession une réalité encore peu documentée, celle des passeurs et trafiquants violents face à des personnes démunies et prêtes à tout pour rejoindre l'Europe.
Et chaque pays, c'était difficile à vivre. Tu vois, parce que la police qui nous rendait un peu recherchés et tout, le travail n'y a pas, c'était difficile en fait. C'est un peu comme quitter la misère, tu vois. J'ai suivi les autres jeunes et j'ai continué mon parcours.
Un parcours qui le conduira finalement jusqu'en Espagne après une dernière traversée en mer Méditerranée. Plus de 8 ans après son départ du Cameroun, Augustin Prince Nombol travaille désormais dans l'industrie alimentaire. Il est même devenu auteur. Nicolas Kirilovitch, Las Palmas de Gran Canaria, RFI.
RFI, 22h40 en temps universel, 1 heure de plus ici à Paris.